France Musique.
À samedi prochain, Nicolas Lafitte.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de mail, s'il te plaît ?
Ok.
Parfait pour le mail. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous et merci de partager avec nous ces premières heures de la matinée. Ce matin encore dans Fabrication Maison, nous vous entraînons dans les coulisses de Radio France et de sa vie musicale. Dans la séquence portrait, nous serons en compagnie ce matin du neurologue Pierre Lemarquis, qui évoquera en musique les liens entre musique et cerveau. Notre reportage nous fera découvrir les premiers sons de l'orgue de Radio France, puis nous retrouverons nos rubriques habituelles, Marie Fauché et sa chronique à 8h20, Jean-Yves Patte et ses archives à 8h30, la lettre de l'auditeur à 8h45 et Questions de cœur avec Sophie Janin à 8h50. Vous êtes prêts ? On y va.
France Musique.
Alors depuis un petit moment se tient à la Maison de la Radio une série de conférences sur les liens que la musique et le cerveau entretiennent. Un troisième cycle débute aujourd'hui et j'ai donc le plaisir de recevoir le neurologue Pierre Lemarquis qui ouvrira la réflexion ce matin. Bonjour Pierre Lemarquis.
Bonjour.
Alors vous êtes neurologue, vous êtes aussi neuro...
Physiologiste.
Physiologiste. Puis vous êtes aussi musicien je crois.
Bah, j'ai été un petit peu petit chanteur La Croix de Lorraine dans ma jeunesse et puis organiste entre 15 et 25 ans.
Et pianiste à vos heures maintenant ?
À mes heures et puis bon, on en parlera sans doute, je m'occupe d'un festival de musique classique en Corse. Enfin, je participe depuis quelques années, depuis 8 ans maintenant.
Alors ce matin nous allons essayer de dessiner un petit peu votre portrait en musique Pierre Lemarquis. Et on commence tout de suite par une musique que vous avez choisie, je crois que ça va réjouir tout le monde. Très apaisant ce premier choix, Pierre Lemarquis, la musique du doudouk arménien.
Alors, le doudouk arménien qui est patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO depuis 2005. Donc on vient d'entendre Levon Minassian qui est un des plus grands joueurs de doudouk. Et puis peut-être cet air vous dit quelque chose parce que Peter Gabriel l'a réutilisé. Et puis on l'entend dans la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Mmh. Donc ça a été réutilisé. Alors évidemment quand on entend ça, on a l'Arménie sous les yeux. On a aussi un peu de nostalgie. Mais ça nous fait du bien. On se sent très bien. On se sent apaisé. Ça nous a fait secréter plein de bonnes choses dans notre cerveau.
Vous ne trouvez pas ça triste, vous, Pierre
Lemarquis ? Ah ben, nostalgique. Il y a un côté triste, mais on est très content de l'entendre. Donc ça nous fait du bien, on se sent apaisé. Après, on se sent
la nostalgie relaxé. Fait du bien.
La nostalgie peut tout à fait faire du bien, parce que ça nous rappelle des souvenirs qui vont peut-être revenir, des moments où on était heureux. Quoi. Donc ça fait toujours plus de bien que de rappeler des choses tristes. Et puis ça fait beaucoup de bien. On a trouvé, il y a d'autres musiques qui ont été étudiées. Dans les montagnes du Caucase, on a le peuple des Zadigs. Alors, c'est avec le A. Le Z, c'est la liaison. Hein. A-D, Y, G-H.
Mais c'est pas Voltaire.
Voilà. Et donc, ils habitent dans des montagnes et ils ont une musique qui ressemble à leur paysage. Et à côté, il y a les Russes qui ont des musiques très longues avec des notes tenues, c'est la steppe. Et eux, ils ont des morceaux très courts avec un ténor et qui évoque ce qu'ils chantent évoque les montagnes, la forme des montagnes. Et derrière, il y a un chœur d'hommes qui fait un roulement qui évoque l'écho. Vous voyez, on est presque dans un pastoral. Il y en a aussi des oiseaux, des ruisseaux. Et cette musique qui ressemble à leur décor est fondamentale pour ces habitants. Et quand s'ils sont malades, qu'ils vont dans les hôpitaux modernes dans la vallée, on leur passe cette musique lorsqu'ils sont en réanimation parce qu'ils s'accrochent à la vie grâce à ça, c'est la musique de leur montagne. Et ils n'ont pas du tout d'opiacés dans la montagne, donc s'ils ont mal, ils se soignent avec la musique. Alors on trouve des musiques très détaillées, il y a notamment une musique pour calmer la douleur quand on extrait une balle de la cuisse. Oui, oh c'est très précis. C'est une musique assez joyeuse, hein. Donc je pense qu'elle doit plus distraire de la douleur, mais on sait que la musique nous fait sécréter de la morphine endogène. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut avoir la chair de poule en écoutant de la musique. On aura rarement la chair de poule en entendant quelqu'un parler, sauf si on est amoureux. Mais bon, la musique nous donne la chair de poule grâce à la morphine qu'elle nous fait sécréter. Donc le côté antalgique de la musique qui pourrait être utilisé chez les rhumatisants. Enfin, ça...
Alors donc la musique a un lien avec la guérison, comme on va l'entendre avec cette tarentelle. Et c'est une tarentelle interprétée par l'ensemble L'Arpeggiata que dirige Christina Pluart que nous écoutions. C'est votre deuxième choix, Pierre Lemarquis. Alors cette tarentelle, on sait que c'est une histoire d'araignée.
Oui, parce que bon, ça se passe dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, qui au départ était une colonie grecque. Si vous allez dans les Pouilles, il y a plein d'inscriptions en grec. Donc c'est certainement un lien avec Dionysos, avec les cultes dionysiaques. Donc quand on pensait que quand une jeune fille était mélancolique, vous savez, les mélancoliques qui reste allongé.
On en mourait de la mélancolie.
On en mourait. Et puis, s'ils sont un peu hystériques, ils peuvent se mettre sur le dos. Vous voyez, comme on a des belles photos de Charcot à la Salpêtrière, enfin des dessins. Donc, on ressemble à une araignée. Donc, on pensait que les jeunes filles avaient été mordues, piquées par une tarentule. Donc, le seul moyen de les en sortir, de faire sortir le poison, c'était de leur jouer d'une tarentelle qui les réveillait, qui les sortait de leur léthargie. Et la personne qui a étudié cette danse, donc vers l'an 1600, c'est un jésuite. Le bon père Athanasius Kircher, c'est d'ailleurs une de ses tarentelles. Alors il a failli trouver absolument tout. Il a failli déchiffrer les hiéroglyphes, il a inventé le cinéma, c'était trop tôt, il a inventé l'orgue hydraulique, il est descendu dans des volcans, il a inventé des microscopes. C'est un type extraordinaire, mais surtout il a écrit un livre énorme qui s'appelle Musurgia Universalis, où il résume tout ce qu'on connaît sur la musique à son époque, quoi, c'est pas. Et dedans, donc, dans un autre livre sur l'harmanie, sur l'aimant, sur tout ce qui peut être magnétique. Donc, il nous parle de cette tarentelle qui va, comme un aimant, faire sortir le poison de la pauvre fille qui est dans sa mélancolie. Et ça marche bien et ça marche encore. Ça y est, maintenant.
Alors, est-ce que ce sont des croyances ou est-ce que ce sont des choses qu'on vérifie, les scientifiques?
Alors, ça marche bien, parce que c'est une musique très entraînante. Donc, si vous êtes triste, vous entendez cette musique entraînante, elle va vous faire sécréter dans votre cerveau des substances agréables, comme la sérotonine qu'on trouve dans tous les antidépresseurs, et puis également la dopamine, qui est un peu le neuromédiateur du désir, quoi. Donc, vous voyez, donc ça donne envie de faire quelque chose. Donc, écoutez une musique comme ça, vous sécrétez plein de dopamine. Par exemple, si vous avez un Parkinson, ça va vous améliorer.
C'est vrai?
Oui, on sait que, par exemple, le tango améliore le Parkinson, et on sait simplement le simple fait d'imaginer une musique qui nous plaît, ça fait sécréter de la dopamine, oui, même sans l'entendre.
De l'imaginer. Bon là, heureusement, on n'imagine pas. Le Corsican Trio, on va l'entendre. Thank you. Alors, le Corsican Trio invite Bastien Ribaud. Comment est-ce que vous avez découvert ce Corsican Trio?
Alors, c'était une soirée merveilleuse. On va imaginer, voilà, nous sommes toujours en été, que nous sommes en Corse. Donc, on a été se baigner cet après-midi à côté de l'île Rousse. Et puis, on monte dans le village de Santa Reparat, où donc il y a un festival qui s'appelle Musica Classica, qui existe depuis 8 années, auquel je participe. Ce soir, on va écouter Emmanuel Rosfelder. Hier soir, on a entendu le Trio Wanderer. Demain, on aura Sandrine Pio. Et puis, on a une surprise. En début de concert, avant Emmanuel Rosfelder, des enfants du village, notamment Fanu Toracinta, qui a monté un trio. Donc, on l'a connu il y a 8 ans. Il jouait déjà très, très bien. Et là, il vient de sortir ce disque qui est très intéressant, avec du Django Reinhardt et puis des chants corses. Et puis, une composition de lui, Avia. Donc, voilà, on vient de manger de la charcuterie. On est sur la place du village. On a de la fiadone.
Il est un peu tôt ce matin pour faire tout ça.
Et on a l'impression, pendant un moment, on a l'impression qu'on va passer une très bonne soirée. Et puis, on a l'impression que ça s'appelle un peu le bonheur.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites à propos de ces jeunes, parce que on parle beaucoup d'écouter de musique, mais Pierre Lemarquis, est-ce qu'en faire n'est pas quelque chose qui aussi a une incidence sur le cerveau? Que les musiciens, on le sait, ont des capacités bien supérieures à la moyenne, non?
Ben, il paraît qu'ils évitent l'Alzheimer, enfin certains, en tout cas qu'il y en aurait moins chez les musiciens. Et puis pour les enfants, c'est très très important. Il y a une belle étude qui est sortie cette année qui montre que des enfants qui font de la musique, pas des staccanovistes, hein, ils font une demi-heure par jour de musique, eh bien, ils développent la partie antérieure de leur cerveau qui est très impliquée dans les actions sur le monde, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, ils seront meilleurs pour passer des examens. Ils vont mieux planifier leur révision, ils vont mieux planifier le temps de réponse à une question. Donc, ils augmentent leur chance de succès à un examen. Donc, faire une demi-heure de musique par jour pour un enfant, c'est très positif pour ses études.
Alors, il y en a un qui a commencé jeune, assez talentueux, c'était Glenn Gould. Alors moi, je me sens super en forme après ça. Après cet écho de l'ouverture dans le style français BWV 831 de Bach, joué par Glenn Gould. Déjà, la musique, elle est d'une tonicité, d'une vivacité, je trouve, cette musique de Bach.
On montre bien que Bach, ça swing.
Oui, ça swing, ça c'est vrai.
Et puis, c'est du Gould. Alors bon, Gould, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Bon, et puis Bach, j'ai été organiste pendant 10 ans, donc je ne veux pas ne pas vous parler de Bach. Alors, Gould, il est très très intéressant pour les neurologues, parce que vous savez qu'il avait une névrose obsessionnelle, donc il ne pouvait plus toucher les claviers. Donc il mettait des gants pour toucher les claviers, donc il jouait dans sa tête. Alors il lisait les partitions, on peut penser qu'il les apprenait par cœur, mais en même temps, réellement, il les jouait. Et on a montré, maintenant de manière scientifique, que si on imagine jouer un morceau, notre cerveau va fonctionner un peu comme si on le jouait pour de bon, vous voyez, c'est pas... Donc il préparait, il sculptait son cerveau, et quand il arrivait au clavier, il était capable de jouer le morceau, vous voyez. Donc ça, c'est très important. Alors, les sportifs connaissaient ça bien avant les neurologues et même peut-être bien avant Glenn Gould, puisque c'est que dans une descente en ski, si vous imaginez la descente avant de la faire, vous allez avoir la médaille d'or, vous voyez, c'est pas... Mais ça, c'est très important dans la vie courante. Si vous casser une jambe, si vous imaginez que vous faites marcher cette jambe, vous allez récupérer bien plus vite, vous voyez, que simplement si vous avez la kinésithérapie.
Alors on va terminer avec la voix. La voix, c'est quand même fondateur. C'est la voix, c'est on dit que le chant précède l'acquisition du langage. Alors peut-être déjà même dans l'histoire de l'humanité, mais en tout cas dans la vie des bébés et des petits humains que nous avons tous été.
Ah oui, on a bien plein d'arguments qui laissent penser que l'homme chantait avant de parler, mais il continue de le faire. Le bébé gazouille, il chantonne avant de commencer à former des mots. Donc certainement, la musique était dans notre cerveau avant le langage, et puis elle persiste après. Dans la maladie d'Alzheimer, on peut faire chanter des gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a quelque chose de très beau. Et on a vu avec Gould que sa pensée, quand il imaginait jouer, il se sculptait son cerveau. Donc on a un organe qui peut se sculpter lui-même par ses pensées. Et quand on entend une musique qui nous plaît, elle pénètre dans notre cerveau, puis on a des neurones qui se mettent à chanter et à danser, même si on bouge pas, qu'on appelle ça les neurones miroirs, mais la musique s'incorpore à notre cerveau, donc on peut parler vraiment d'une espèce d'incarnation, vous voyez. Donc depuis Spinoza, on nous dit que la matière crée l'esprit, c'est un beau cas où, avec la musique, où l'esprit s'incarne, d'où, et je fais plus confiance en matière de musique à Mozart qu'à Spinoza.
En tout cas, il y a voix et voix, celle de Nathalie Dessay est vraiment très belle.
Thank you.
Ce magnifique Et Incarnatus Est, extrait de la messe en ut mineur que Schell 427 de Mozart, était chanté par Nathalie Dessay, avec elle le concert d'Astrée dirigé par Louis Langrée. Donc, on s'incarne.
Oui, la musique et puis les arts en général s'incarnent. Hein. Vous m'avez dit hors micro que vous avez pleuré devant deux toiles.
Comment racontez ce que je vous dis? Non, c'est pas bien ça.
On peut pleurer en entendant Et Incarnatus Est. Que ce soit la musique, les arts visuels ou un livre, on sait maintenant que les personnages s'incarnent dans notre cerveau. Notre cerveau continue de fonctionner quand on a terminé un livre, comme si les personnages étaient à l'intérieur. Quand on regarde une œuvre d'art, c'est comme si on était face à quelqu'un de vivant. Et quand on entend une musique, notre cerveau fonctionne comme si la musique s'incorporait à l'intérieur de lui. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'empathie. Aristote avait déjà décrit tout ça il y a très longtemps, mais maintenant les neurosciences le confirment, quoi, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on peut aller à l'envers un petit peu de ce que pouvait dire Spinoza ou de ce qu'on dit habituellement. Comme quoi l'esprit naît de la matière. Là, c'est l'inverse, c'est un esprit qui s'incarne à l'intérieur de nous. C'est l'esprit de Mozart. Quand les grands interprètes, en général, ils se sentent possédés par le compositeur dont ils jouent un morceau. Quoi. Ils ont l'impression qu'il revient à l'intérieur d'eux. Donc ça, c'est très important, ce va-et-vient qu'on a entre une œuvre d'art et nous. C'est vraiment là qu'il peut y avoir un effet de thérapeutique. C'est ce qu'Aristote appelait bien avant Freud la catharsis.
Bon, bah écoutez, on va écouter la musique un peu différemment, peut-être. Merci Pierre Lemarquis, je voulais quand même signaler que vous avez donc déjà publié deux livres, donc Sérénade pour un cerveau musicien et Portrait du cerveau en artiste qui sont publiés chez Audi Jacob. Il y en a un autre à paraître qui est un petit peu différent, qui est plus romancé peut-être.
Ça a été démontré que quand on lit un essai, on oblige notre cerveau à suivre le raisonnement de celui qui l'a écrit. Alors que dans un roman, on est beaucoup plus proche de la vie réelle. Donc j'ai fait un essai qui est légèrement fictionnel.
Et puis alors donc tout à l'heure à 10h, vous allez démarrer sur votre conférence que vous avez intitulée « Histoire et hypothèse ». Alors, il y a des hypothèses.
On m'a donné la meilleure conférence, puisque je vais faire l'historique et donner des hypothèses. Donc, on va partir d'un tableau de la Renaissance, donc les ambassadeurs de Hans Holbein, et on peut prendre chaque élément de ce tableau et y voir un lien avec la musique et la façon de soigner en musique. Vous voyez, on sait que le commanditaire de l'œuvre était musicien, les personnages sont musiciens, il y a des liens avec l'Antiquité, avec Pythagore, il y a énormément de choses, puis surtout, il y a une belle partition de musique. Que je ne détaillerai pas
non,
pour l'instant.
Ne détaillez pas. Si vous voulez tout savoir, le rendez-vous est à 10h au studio 105 de la Maison de la Radio. Merci Pierre Lemarquis.
Merci.
En novembre dernier, à Radio France, nous avons inauguré l'auditorium de la Maison de la Radio, mais il y manquait une pièce maîtresse, l'orgue. L'instrument lui-même, avec ses milliers de tuyaux, était arrivé l'année dernière. Mais installer les tuyaux ne suffit pas. Pour qu'un orgue vive, il faut l'harmoniser. Et c'est à quoi s'emploie André Lacroix, de l'atelier Gerhard Grenzig, à Papiol, près de Barcelone, atelier qui a construit l'instrument. L'équipe d'harmonisation profite du déplacement des orchestres et du vide de l'auditorium avant la saison pour s'attaquer à cet instrument géant. C'est l'occasion pour nous, avant l'inauguration, d'entendre les premiers vagissements du bébé. Attention, c'est une naissance.
C'est un début, hein. Si vous revenez dans quelques semaines, il y aura...
André Lacroix, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que je pense que c'est un mystère pour tout le monde, en quoi consiste votre métier? Qu'est-ce que vous êtes alors, vous, précisément?
Je suis harmoniste, surtout. Je suis facteur d'orgue, bien sûr, mais je suis harmoniste, disons, dans une bonne proportion du temps que je dédie à la facture d'orgue. Alors, mon travail, idéalement, ce serait de rendre tous les organistes heureux, parce qu'en fait, ce sont les musiciens qui auront le dernier mot et qui j'espère, seront satisfaits à l'heure de leurs interprétations, de leurs créations, parce que Notre travail, c'est le but, du luthier, c'est le but du facteur d'orgue, c'est le but de tous les fabricants d'instruments, en fait, qui veulent vraiment aller chaque fois un peu plus loin et faire de meilleurs instruments. Et dans un sens, c'est toute une responsabilité, tout un honneur d'être là, mais il faut être capable d'essayer d'apporter des choses nouvelles aussi. Et bien sûr, tout ça, ça présente des certains risques, en disant. Mais je pense que c'est comme ça que les choses avancent et c'est un peu ça qu'on veut. On veut que l'orgue soit différent et qu'il soit surtout très versatile et intéressant, disons. Intéressant au niveau de donner envie à tous ces musiciens-là de chercher et de créer, en fait. Une autre couleur ici, on a la flûte à cheminée. Harmonie, c'est comme disait Don Bédos, c'est faire parler les tuyaux, on peut dire les faire chanter, on peut interpréter ça comme on veut, mais c'est équilibrer chaque tuyau, premièrement au caractère qu'on veut donner à chaque jeu, et ensuite à l'équilibre des claviers, ensuite à l'équilibre de l'orgue tout entier. Voilà, c'est un résumé très simple, mais oui. En fait c'est ça.
Donc vous partez du tuyau pour arriver à l'instrument.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. On part de petit pour construire grand, bien sûr.
Vous allez vous attaquer d'abord à quoi ? Au petit tuyau ou au grand tuyau ?
Ici, la base de l'orgue, c'est la montre 8. La montre 8, c'est le registre que vous voyez ici. Pardon,
je vais reculer.
C'est ça, la montre 8, c'est une partie de la façade. Hein. Les tuyaux les plus graves sont en façade, les autres sont à l'intérieur. Et c'est un peu le registre, le jeu qui est la base de l'orgue, voilà. Mm. Voilà. C'est le fondement du grand orgue. Le grand orgue, son nom le dit, c'est le clavier maître, en fait, c'est le clavier principal. Et voilà, on commence par établir la base de la montre 8, qui nous donnera un peu, on veut que ce jeu emplisse la salle, sans être agressif, sans être, qu'il ait son point de toucher un peu à chaque personne qui est assise là et à partir de là on construit.
On peut comparer ça au premier accord de l'orchestre. On plante le la et à partir de ça l'orchestre s'accorde.
Voilà, ça serait au niveau, disons, du diapason, mais c'est un peu la même chose, tout à fait. Après ça, de voir comment la salle répond quant aux attaques, on parle vraiment de flexibilité du langage qu'on veut lui donner et entrer chaque fois plus un peu dans tous ces petits détails-là, ouais. Mm-hmm.
Ce qui veut dire que concrètement, André Lacroix, vous transformez encore un peu les tuyaux, vous fermez, vous ouvrez.
Ah oui, tout à fait. Ici, l'orgue est fermé dans une chambre. On veut un orgue qui soit capable de, je ne veux pas dire rivaliser avec l'orchestre, mais qui soit capable de se mêler et même passer par-dessus si le besoin en est. C'est tout un défi de donner cette présence que l'orgue puisse être puissant, qu'il ne soit jamais écrasant, qu'il garde son raffinement dans les détails. Alors, les débuts, à ce niveau-là, sont très importants. C'est la même chose qu'un concertiste qui rentre en scène. Il y a toujours un peu de questions, de trac, en fait, on se pose beaucoup de questions, on s'interroge beaucoup sur le chemin à prendre au début. Et il faut le faire, c'est très important. On n'est jamais sûr d'avoir raison ou pas, mais il faut suivre nos intuitions, notre expérience et aussi ce que la salle nous dicte.
Alors là, on est vraiment perché.
on est à moitié chemin, en fait. Ouais.
Oui, on est à
la console.
On est à la console. Alors donc, face à nous, c'est assez merveilleux. On a donc le demi-cercle de l'auditorium en bois.
Oui, on est tout près de la scène. En fait, on est, je ne sais pas, 6 mètres peut-être, ou même pas. Hein? Et on a les musiciens ici en face, oui.
Ce qui est quand même le but un petit peu de cet orgue, c'est-à-dire de ne pas être trop éloigné des musiciens qui sont sur le plateau.
Voilà, c'est un orgue, on peut dire, avec des caractéristiques orchestrales. C'est aussi un orgue soliste, bien sûr, c'est aussi un orgue, en fait, qu'on pourrait dire aussi orgue d'église. On voudrait versatile à tous les points de vue, bien
ah
sûr.
Oui.
Parce qu'il a en fait les mêmes caractéristiques. C'est la seule différence, en fait, c'est peut-être justement l'acoustique qui n'est pas tout à fait l'acoustique d'une église. Alors, ce qui change un peu les paramètres du son au niveau de la réverbération, tout ça.
Vous avez, André Lacroix, testé un peu l'acoustique de la salle. C'est important pour vous de la connaître?
Ah oui, bien sûr. On a écouté d'un peu partout. Il y a des surprises à tous les niveaux. On a entendu hier un quintet qui était là, qui répétait. Et on a vu aussi l'effet que pouvait avoir cinq bois dans une aussi petite salle, ce qui est quand même très surprenant, oui. En fait, ce qui est surprenant, c'est quand on la regarde d'en haut comme ça, comme on est maintenant, c'est que la salle, effectivement, paraît petite. Et le public est logé en hauteur, en fait. C'est ça la grande différence, oui.
C'est aussi le confort de ce public, c'est d'être finalement pas si éloigné que ça des musiciens.
Voilà. On est toujours prêt et on a toujours aussi, je pense qu'au niveau aussi, au point de vue visuel, c'est quand même très intéressant parce qu'on a presque l'impression de participer. Oui.
Le quintaton, le positif. Le principal, le positif aussi.
Alors donc, l'orgue a été installé un peu avant l'ouverture de l'auditorium. Je me souviens que ça a été assez chaud, comme on dit.
Oui, bien sûr. Oui. C'est un climat de construction pure, en fait. C'est un climat qui est peut-être pas très propre à monter un instrument. Je ne vois pas un violoncelliste venir laisser son violoncelle ici au milieu.
Mais c'est
ce qui est arrivé à l'orgue. Alors, on a dû bien le protéger. On a essayé de le protéger le mieux possible. Et nous devons être conscients tous qu'un orgue, c'est pas un petit meuble, en fait. On a besoin d'espace pour bien manœuvrer tout ça. Et arriver après la finition de la salle, compliquer un peu les choses aussi, à plusieurs points de vue.
En fait, il y a le pupitre de l'orgue qui est définitif installé dans les parois de l'auditorium.
Voilà. Il y a la console qui est mécanique, qui est attachée à l'orgue, où vraiment la sensation, le toucher est un autre. parce qu'on a vraiment le toucher mécanique des orgues anciens, en fait, classiques. Mm-hmm. Et on a la console qui est électrique, qui est en scène et qui permet bien sûr pour le répertoire avec orchestre d'être plus près du chef, d'être peut-être aussi plus près des musiciens, en prenant vraiment part de l'orchestre. Le toucher n'est pas le même, c'est pas le toucher mécanique, même si les touches sont proportionnelles et c'est quelque chose qui est vraiment très avancé au niveau du toucher, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, bien sûr.
Mm-hmm. Ce qui veut dire, André Lacroix, qu'il y a peut-être une répartition des répertoires. Il y a certains répertoires qui vont plutôt se jouer sur la console mécanique et peut-être certains autres qui seront plus appropriés pour la console électronique.
Je pense qu'en premier lieu, j'imagine en fait, que ce sera aux musiciens à choisir pour vraiment savoir de quelle façon il veut toucher l'instrument, il veut le dominer. Et je pense qu'à partir de là, tout est possible. Les répertoires, en fait, devraient être aussi possibles sur une console que sur l'autre, idéalement. Je suis sûr qu'il y a des organismes qui seront beaucoup plus confortables à jouer sur certains répertoires sur la console mécanique, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Mais ceci dit, au niveau de registration, c'est-à-dire au niveau du travail de l'organiste, la console mécanique a un certain désavantage parce que sur la console mécanique, on n'a pas une écoute aussi précise de l'orgue et de la salle. On perd le toit ici qui nous recouvre un peu, la mezzanine, en fait, la corbeille est un petit désavantage sur l'écoute de tous les jeux, leur clarité et même la dynamique parce qu'on n'a pas une perception aussi nette que de la scène ou en salle.
Thank you.
Un extrait de Ground 2 de Thierry Escaich pour orgue et percussions, avec Thierry Escaich à l'orgue et Emmanuel Kurt aux percussions. L'orgue de Radio France sera inauguré bientôt les 10, 11, 12 et 13 décembre et s'associera à un peu toutes les formations maison à l'occasion des concerts. Mais vous vous en doutez bien, nous en reparlerons dans Fabrication Maison. Et voici venue l'heure de la chronique de la Maison Ronde avec vous, Marie Fauché. Bonjour Marie.
Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Un silence comme ça, si je ne l'avais pas préparé avec le trac, j'aurais le vertige. Je m'engouffrerais. C'est étrange le silence à la radio. Ça fait un trou. À la maison de la radio, demain, vous ne serez pas silencieux, mais oui, vous aurez le vertige. La tour centrale fait 22 étages et vous êtes conviés, chers auditeurs, à nous rejoindre et à y grimper au pas de course pour une cause caritative.
Ça s'appelle Vertigo, c'est une course solidaire. Vous pouvez vous inscrire sur vertigo-maison-de-la-radio-tout-attaché.org et collecter des dons. L'intégralité du montant des inscriptions sera reversée au projet éducatif mené par Play International.
Et je vous propose dans cette chronique une petite playlist à l'usage des sportifs de demain. Le vertige ou le rapport au vide, ça n'est pas un état que les musiciens ignorent. L'un d'entre eux a connu une ascension vertigineuse au début de l'été, le jeune pianiste français Lucas Debargue, qui vient de remporter le 4e prix et le Grand Prix des critiques au concours Tchaïkovski à Moscou. Et cette ascension est étrangement à l'image de ce qu'il dit de la musique. En musique, il faut se jeter, dit-il. Ne pas chercher à se retenir, à s'accrocher. Bien sûr, il y a un énorme travail en amont, passer ses journées proches du piano, des partitions, connaître la moindre note, le moindre silence, la moindre nuance. Et une fois qu'on a fait ce travail, il faut sauter, sans parachute, sans rien, tout nu, et prier pour que la musique nous porte. Fin de citation. Alors voilà ce que je vous propose d'écouter pendant les 7 premiers étages. Lucas Debargue, finale de la sonate numéro 7 de Beethoven. Vous avez fait un tiers du parcours, donc là, il ne faut pas lâcher.
Allons, plus vite, nom de Dieu, allons plus vite.
Voilà qui pourrait être une idée, une mélodie de Francis Poulenc de 1938, allons plus vite, c'est doucement énigmatique et brumeux. Mais si vous préférez ne recevoir d'ordre de quiconque, quand bien même il s'agirait de Guillaume Apollinaire, alors l'injonction à l'accélération pourrait être purement musicale.
Mmh.
demain matin, avant la course, je vous enjoins à regarder la vidéo de Carlos Kleiber dirigeant cette accélération de Johann Strauss. Je suis sûre que les sportifs doivent pouvoir en être enseignés. Il y a à la fois une économie dans les gestes et une légèreté gracieuse. L'accélération semble se faire toute seule, naturellement.
Alors d'autres conseils musicaux, Marie Fauché, pour nos athlètes?
Oui, alors j'ai pensé aussi aux moins sportifs. Pour eux, il y a la marche. Celle-ci est une marche au supplice, c'est encore mieux. Et avec la même intention, il y a aussi, toujours pour les moins sportifs, cette musique d'ascenseur-là.
La musique d'ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis succédait à la marche au supplice de la symphonie fantastique de Berlioz.
Ouais, le parallèle est troublant, on pourrait s'y pencher un peu plus. Une prochaine fois, promis. Alors évidemment, comment négliger cette danse de laquelle Rousseau écrivait dans son dictionnaire, ainsi nommée à cause des allées et venues dont elle est remplie plus qu'aucune autre. La courante, bien sûr, et de préférence celle de la sixième suite pour violoncelle de Bach, ici Jean-Guillaume Queyras. Plus que 5 étages. Tenez bon, vous y êtes. Pour vous accompagner, Gheorghi Ligeti, l'escalier du diable.
Thank you.
Pierre-Laurent Aymard interprétait cette étude numéro 7 pour piano, L'escalier du diable de Gheorghi Ligeti. Et la course Vertigo a lieu donc demain dimanche à la Maison de la Radio. Vous pouvez vous inscrire sur internet vertigomaisondelaradio.org.
Et vous retrouvez la playlist officielle de la course sur la page Fabrication Maison du site de France Musique. Merci Marie Fauché.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors ce matin on va faire une émission de radio comme au début.
Comme au bon vieux temps. La radio parle un tout petit peu depuis la fin du 19e siècle, on dit trois mots, mais c'est surtout une radio de morse, d'information, c'est une radio militaire souvent. Et en 1921-22, la radio Tour Eiffel, première radio nationale, s'ouvre au public et propose des émissions de divertissement. On y parle, on y chante et on y entend de la musique. Alors c'est ce que je vous propose ce matin de retrouver. Le premier qui a causé dans le poste, comme on dit, c'est Sacha Guitry. Écoutez-le.
Monsieur Green, marquis, nous parlions à l'instant de ce petit prodige qui étonne à Paris il y a de cela une dizaine d'années.
Ah, le petit Mozart.
Oui, et Madame d'Épinay nous vantait ses dons extraordinaires. Il composait, paraît-il, à 5 ans. Soit, je veux bien l'admettre, mais dites-moi, baron, était-ce bien qu'il composait?
Bien? Oh, mon ami, c'était... Comment dirais-je? C'était très simple, et c'était très prenant. Je me suis souvenu longtemps d'un petit menuet qu'il avait composé ici même. Comment était-ce donc? Ah, que c'est bête. Je l'entends, et je ne peux pas le faire. Mais lui, je le revois, c'est drôle en ce moment, si menu, si charmant dans son habit de satin rose. Quand on lui demandait de jouer quelque chose, il ne disait pas oui tout de suite, jamais, car il voulait savoir si d'abord on l'aimait. Quand on lui disait « joue », il vous prenait entre ses bras, se pressait contre votre joue et vous disait tout bas, avec un son de voix d'une douceur extrême. « Je m'en vais te jouer tout ce que tu voudras, mais dis-moi d'abord que tu m'aimes. » Quant à ce menuet, c'est bête, mais il m'est vraiment sorti de la tête.
C'était la voix de Sacha Guitry.
En fait, en 1922, il a dit des vers de Victor Hugo. Mais évidemment, on n'a rien enregistré. Alors j'ai trouvé que le plus près, c'était ça. Puis ça lie la voix et la musique, ce qui est quand même assez proche de notre thème, je crois.
Alors la musique, c'est celle de Reinaldo Hahn. Ça n'est pas rien. Jouer sur un instrument, quand même, assez étonnant.
Oui, c'est un clavecin un petit peu violent. C'est les clavecins Pleyel. On avait voulu améliorer le clavecin du 18e dans un instrument de concert super puissant. Alors ça fait un peu boîte à clous, effectivement.
Un petit peu boîte à clous. Donc c'est un disque gramophone de Londres, 1929. Alors je tourne le bouton de la radio. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ça y est, on a déversé les actualités, on a dit de la poésie, etc. Et maintenant, on va s'intéresser à la chanson, à la mode. Et le poste Radio Paris avait engagé un certain Mario Casès qui produisait les artistes qui souhaitaient devenir un petit peu des vedettes, qui avaient besoin d'être confirmés par la radio. Alors, il y avait un orchestre dans le studio et les chanteurs venaient en direct. Et ça a été le cas, par exemple, de Jeanne de l'Oncle, un peu oubliée.
Tes yeux profonds ont versé leur fond doré sans chaud rayon. Que tu m'as murmuré, non, c'est folie. J'ai des baisers brûlants que jamais on n'oublie. Depuis le cœur doublé d'amoureux désirs, c'est par toi que je veux. Savoir avoir rien qu'une nuit
Jeanne Delonge. La voix de Jeanne Delonge.
Oui, chanteuse réaliste, bon, qui n'a pas fait une très très grande carrière, qui est quand même un petit peu connue. Mais Mario Casas, qui est quand même resté attaché aux ondes jusqu'en 1947.
Disque Parlophone, Paris, 1926.
Voilà.
Et maintenant, voilà le trésor.
Le grand moment, puisque comme aujourd'hui, on faisait venir les artistes en direct à la radio. Et dans les années 20, ce qui passait le mieux, c'était le violon. Sans doute à cause de la qualité des micros et surtout l'instrument pouvait être vraiment placé devant, très très proche d'un micro. Donc il y avait un piano et un micro. Et bien, comme si nous y étions, je vous propose de retrouver Jacques Thibault dans la superbe Havanaise de Saint-Saëns. Ça a été enregistré en 1933, mais nous sommes dans les conditions du direct de 1922.
Très beau.
Vous imaginez un peu le choc des auditeurs
découvrant ça. 1933.
Alors, surtout que là, il faut s'imaginer qu'on est 10 ans auparavant et on écoutait les postes à galène. Vous savez que les aiguilles qu'on plaçait, et c'est seulement dans les années qui suivent que la société des postes à lampe va être fondée et qu'on aura des retransmissions de meilleure qualité.
Déjà, c'était formidable.
Pas mal,
donc, Jacques Thibault au violon, Tasso Yiannopoulos au piano, la Havanaise opus 83 de Camille Saint-Saëns, et c'est un disque gramophone.
Voilà.
Que demander de plus ?
Rien. On continue notre feuilleton radiophonique la semaine prochaine ?
Avec plaisir.
À bientôt.
Et voici venu le moment de la séquence « Parlez-moi de musique » où nous lisons un souvenir envoyé par l'un d'entre vous. Ce matin, c'est Yves de Solier. En 1957, j'ai 18 ans. J'habite chez ma sœur aînée, à Paris, où je travaille. Ma sœur possède un meuble impressionnant, un poste radio et un tourne-disque. J'ai réussi à faire quelques économies et m'achète mes premiers disques. J'ai hâte d'écouter le premier, la 9e symphonie de Beethoven. Là, il faut revenir 7 ans en arrière. Je suis aux enfants de troupe. C'est très dur, affectivement surtout. Ma famille est à 1000 km. Nous sommes menés très sévèrement. Je survis grâce à la chorale, à l'orchestre d'harmonica et à la fanfare, où je suis clairon. Précisément, le chef de cette fanfare nous dispense à un cours de musique, une fois tous les 15 jours. Et c'est le coup de foudre pour la grande musique. La symphonie fantastique, la Moldau et l'ode à la joie de la 9e. Revenons à présent en 1957. Pendant des années, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter de la musique. Donc je mets le disque de la 9e, et ne connaissant que l'ode à la joie, j'attends impatiemment le chœur. Cette longue attente est un parcours finalement bénéfique. J'ai l'impression, en pleine communion, de construire avec l'auteur cet édifice. Le parcours est exaltant et l'explosion se produit. Alle Menschen werden Brüder. Je suis dans un état second. Presque 60 ans plus tard, j'éprouve à chaque fois la même émotion, dans l'attente de l'ode à la joie. Le sublime mouvement lent m'y conduit, plus d'impatience, mais un bonheur extrême. Merci à Yves de Solier qui nous a envoyé le souvenir de ce matin que nous avons illustré avec la version de la Chambre Philharmonique dirigée par Emmanuel Krivin du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Je vous rappelle que ce sont vos souvenirs, vos anecdotes, vos histoires qui nourrissent cette rubrique. Alors n'hésitez pas à m'envoyer votre prose que je me ferai un plaisir de lire à cette antenne. Toutes les semaines, nous retrouvons Sophie Janin, chef du chœur et de la maîtrise de Radio France, qui répond aux questions que l'on peut se poser autour de la pratique chorale. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour.
Nous nous retrouvons comme tous les samedis pour notre séquence qui termine Fabrication Maison, qui s'appelle Questions de cœur, et où en effet il est question un petit peu des problématiques qui tournent autour de cet apprentissage de la voix ou de cette pratique de la voix, puisque vous dirigez maintenant à la fois la maîtrise et le cœur de Radio France. Alors, il y a un sujet qui est intéressant, qui est préoccupant aussi peut-être pour certains des auditeurs, qui est celui du choix des répertoires. Alors, je sais qu'il y a au mois d'octobre un concours qui va vous permettre de peut-être choisir un certain nombre de compositeurs auxquels vous avez passé des commandes dans le cadre d'un partenariat avec l'IFAC. Et justement, ça permet de se poser la question, quels sont les critères qui vous semblent importants lorsque vous commandez une œuvre à un compositeur ?
Alors, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu, bien évidemment. Et à Radio France, on a une mission qui va au-delà de nos préférences et nos goûts personnels, parce que il me semble que il fait partie de notre devoirs et responsabilités en tant qu'artiste et musicien d'encourager la musique d'aujourd'hui et la musique de notre époque. Ça fait partie de la vie d'un musicien tout court. À Radio France, plus important encore, la création contemporaine doit être encouragée. Elle doit aussi passer par des comités de lecture. Elle doit passer par une parité, si on peut dire aussi. Et la parité entre hommes et femmes. Je pense qu'il y a plusieurs responsabilités que nous devons étudier. Et si on parle ensuite quand même de la musique, qui doit quand même primer sur tout. Et, il me semble que quelqu'un, pour écrire pour cœur ou pour voix, il doit tout simplement savoir bien écrire. Un bon compositeur sait écrire pour la voix, tout comme il sait écrire pour un quatuor de cordes ou pour des instruments à vent ou pour des percussions. Chez les compositeurs que je choisis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont tous un langage qui est aussi innovant et moderne quand ils écrivent pour voix et cœur que quand ils écrivent pour instrument. Et ça, c'est pas toujours facile à trouver. Quand on passe une commande, on a toujours un cahier de charges différent. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça soit une musique qui est chantée et où vraiment la voix peut s'exprimer librement. Et ce que je peux dire comme conseil à tous les compositeurs, c'est qu'il faut imaginer que non seulement on veut que la maîtrise de Radio France crée la pièce et une fois que cette pièce a été créée, aucun autre chœur peut le reprendre. Moi, ce que je souhaite, c'est quand même un élargissement du répertoire vocal et choral. On peut rester innovant, on peut rester soi-même, même si on est forcé parfois à cristalliser son style et à parfois simplifier les difficultés techniques. Et moi, je crois beaucoup en cela et je trouve que ça a été prouvé plusieurs fois que c'est possible pour les compositeurs de le faire. Et c'est avec une pièce de Philippe Hersant que nous refermons ce deuxième épisode de notre feuilleton Question de cœur. Et si la voix vous intéresse, ne manquez surtout pas la nouvelle émission de Karine Lebaille, À pleine voix, le dimanche de 9h à 10h, sur France Musique bien sûr.
Et pour finir agréablement cette émission matinale, Fabrication Maison vous invite à l'un des deux concerts d'ouverture de la saison de Radio France, celui que l'Orchestre Philharmonique de Radio France et la Maîtrise donneront vendredi 18 septembre. Le maître de cérémonie, ce sera donc le nouveau chef de l'Orchestre Philharmonique, Mikko Franck, avec lequel nous passerons d'ailleurs toute la journée du 18 septembre. Et le programme de ce concert réunit Henri Dutilleux, Francis Poulenc et Richard Strauss. Pour gagner des places pour ce concert, à l'auditorium de la Maison de la Radio à 20h, il vous suffit de nous écrire à la page de l'émission Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr. Cyrielle Weber, Pauline Boisaubert et Cédric Chatelus composaient l'équipe de Fabrication Maison ce matin. Merci à eux. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos souvenirs et à très vite.